Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao ce, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Ilaria Graziano. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Kaze. Alors on aura la présentation du manga Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, la chronique du volume 2 de Kuroko's Basket et la chronique du volume 2 de Nabari. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On aura ensuite la partie culture, on continuera à parler des secrets du saké. On aura ensuite une petite actualité au Japon avec le Japon justement qui compte une île de plus après une éruption volcanique sous-marine. Et on finira donc l'émission avec une news musicale concernant le groupe Golden Child avec donc sa nouvelle chanson Rapapam. Voilà, du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission. C'est Wukuchudai de Shi et on viendra juste après pour parler de l'artiste Ilaria Graziano.
你坚对我就很好，短暂分开的缘故会变得有温度。聪明的你是否也有了新的领悟？你常说，单纯就是幸福。 结果有好有坏，但最后一分钟才揭开。 Can you feel love tonight？ 今晚扩大不去爱，每一刻拥有都是无可取代。半夜三更爬上屋顶，我们看着天。 之外，短暂分开的缘故，回忆变得有温度。聪明的你是否也有了新的领悟？你常说，单纯就是幸福。 某个人是上帝给你的礼物，不论距离有多远，相隔多久，一辈子要保护。 Can you feel love tonight？ 我想漫步云海，你每一句话都是无可取代。爱是未知数的集合，结果有好有坏，但最后一分钟才揭开。 Can you feel love tonight？ 今晚跨大步去爱，每一刻拥抱。 经过一些事情，吹着回忆的风，然后明白原来快乐从不曾离开，原来真心无可取代。
Donc c'était She avec la chanson Would Should I. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Ilaria Graziano. Donc c'est une parolière et chanteuse de pop italienne qui a fait ses débuts en 2002 et qui est toujours en activité aujourd'hui. Ilaria Graziano, ou Ila, est donc une chanteuse et vocaliste italienne qui a gagné en popularité en participant à la réalisation de la bande originale de l'anime Ghost in the Shell, Standalone Complex, écrite par la compositrice Yoko Kanno. Graziano commence à jouer du violon et à chanter très jeune, en 1997. En Italie, elle participe à plusieurs projets avec différents artistes, dans l'album Flux avec DJ Miel en 2002. Après avoir étudié la peinture, elle saisit l'opportunité de quitter l'Italie pour Londres, où elle connaît le succès grâce aux titres Where Does These Oceans Go, Velveteen et Monochrome. Quelques mois après, elle collabore en tant qu'autrice et chanteuse avec donc Yoko Kanno sur l'OST de Wolf's Rain, avec Valse de la Lune, ainsi que sur l'OST de Standalone Complex avec I Can't Be Cool, I Do. En 2003, elle rejoint Francesco Forni à la guitare, Sergio Quagliarelli à la batterie et Fulvio Di Nocera à la basse, dans le groupe Rainbow Forest. En 2004, elle collabore à nouveau avec Yoko Kanno sur l'OST de Standalone Complex avec Christmas in the Silent Forest, Do. En 2005, elle participe de nouveau avec Yoko Kanno à l'OST de Cowboy Bebop avec la chanson Tank the Best. Elle travaille ensuite sur un projet solo à Londres où elle réside. En 2007, une petite vidéo live ainsi qu'une interview d'Ilaria Graziano et de Francesco Forni est réalisée lors d'un concert à Naples. Donc côté discographie, Ilaria Graziano a sorti un album. Donc on a Yoko Kanno Produce Cyber BC qui est sorti le 8 juin 2011. Elle a participé également à une compilation, Flying Dog No Christmas, qui est sortie le 19 novembre 2014. Et elle a participé donc à 14 OST. On a notamment Napple Tale Volume 2 Illustrated Guide to the Monsters, qui est sorti en 2000. Ghost in the Shell Standalone Complex, qui est sorti en 2003. Wolf's Rain en 2004. Ashurajo no Itomi en 2005. Ragnarok Online 2 en 2007. Yoko Kanno Seatbelts Raichikyu Kinen Collection Album Space Biocharge en 2009, Kids on the Slope en 2012 et Rasmus Faber Presents Platina Jazz Anime Standards Volume 4 en 2013. Voilà, donc on va pouvoir tout de suite écouter deux chansons de Ilaria Graziano. On commence avec Velveteen et on viendra juste après pour la présentation du manga Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe. We'll be right back.
Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Ilaria Graziano avec la chanson Monochrome. On passe maintenant à la présentation du manga Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, du titre original Rock Lee No Seishun Full Power Ninden. Donc c'est un kodomo de genre action, aventure, comédie, fantasy qui a été écrit par Taira Kenji à partir de l'œuvre originale de Kishimoto Masashi et prépubliée dans le Cycle Jump. La version japonaise est parue en 2010 aux éditions Shueisha avec un total de 7 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 7 novembre 2012 aux éditions Kazé dans leur collection Kids, avec également 7 tomes. Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, n'est malheureusement plus commercialisé en France, mais vous pouviez retrouver la série au prix de 6,49€. L'âge conseillé pour la lire est de 8 ans et plus, et il existe une adaptation en animé de 51 épisodes de 24 minutes, donc Naruto SD Rock Lee no Seishun Full Power Ninded, qui est disponible sur ADN, et on a également une histoire supplémentaire, Uchiha Sasuke no Sharingan Den, qui est paru en 3 tomes au Japon. Donc le résumé de cette série, Rock Lee no Seishun Full Power Ninden est un manga créé par l'assistant de Masashi Kishimoto, Kenji Taira, et qui raconte les aventures délirantes du célèbre personnage de Rock Lee. Avec l'accord du mangaka de Naruto, la série est prépubliée et connaît un tel succès qu'elle est immédiatement publiée et adaptée en animé. Tout le manga est dans le style SD, donc, qui veut dire super déformed, donc c'est des... En gros, ils sont dessinés en petit bonhomme, en fait. C'est... Comment dire ? C'est comique, du coup. Voilà. Du coup, ce sont des sketchs où les personnages les plus influents du véritable manga Naruto apparaissent. On a notamment Naruto, Neji, Gai, Tenten, etc. Il n'y a pas de véritable histoire, puisque le manga est basé sur tout un tas d'aventures différentes de Rock Lee. Voilà, en gros, à chaque chapitre, vous avez une nouvelle petite histoire. Voilà, donc du coup, Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, qui est paru en 7 tomes aux éditions Kazé. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'animé. C'est Give Lee Rock Lee de Hironobu Kageyama. Et on viendra juste après pour la chronique du volume 2 de Kuroko's Basket.
Yeah.
Donc c'était Hironobu Kageyama avec la chanson Givli Givli Rock Lee qui est servie de premier opening pour l'anime Naruto SD Rock Lee no Seishun Full Power Ninden. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Kuroko's Basket. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre tranche de vie qui a été écrit par Fujimaki Tadatoshi et prépublié dans le Shukan Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 30 volumes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Kazé avec également 30 tomes. Ce volume 2 est sorti le 28 mars 2012 au prix de 6,79€. Pour résumer de ce tome, Kuroko et Kagami étant parvenus à enrayer le jeu du prodige Kisei, les équipes de Seirin et de Kaijo se retrouvent au coude à coude. Mais suite à un choc avec son incroyable adversaire, le frêle meneur de Seirin est contraint de quitter le terrain. Privé d'un de ses piliers, le 5 majeur de la jeune coach Aida a-t-il la moindre chance face à un ex-membre de la génération Miracle ? Donc Kuroko, pourtant réputé discret à la fois sur le terrain de basket comme dans la vie quotidienne, se dresse devant Ryota, le prodige de la génération Miracle, prêt à lui ravir le ballon. Mais c'est cette attaque quelque peu inhabituelle, pour notre héros surtout, qui va permettre de révéler tout le potentiel de la combinaison formée par Kagami et Kuroko. Néanmoins, cela n'est que de courte durée puisque notre héros se retrouve rapidement blessé. Le match semble alors remis en cause. Après un tome introductif, plaisant et intéressant qui avait mis en avant notre duo de choc tout juste né, l'auteur ne fait pas l'erreur d'oublier les autres membres de l'équipe de basket lors du match. Ainsi, lorsque notre héros fantôme se retrouve sur le banc de touche pour cause de blessure, Tadatoshi Fujimaki en profite pour nous présenter et mettre sur le devant de la scène les autres basketteurs, permettant alors de multiplier les initiatives pendant le jeu. Bien évidemment, la fin du match verra le retour du duo Kuroko et Kagami. Ce jeu d'entraînement sera aussi l'occasion pour le mangaka de dévoiler tout son talent pour développer les phases d'action. Une fois le match fini, on décompresse avec un chapitre barré et de temps libre, période caractéristique à tout shonen de baston ou de sport. On pourra ainsi assister à un match éclair et rigolo entre le trio formé de Kuroko, Kagami et Ryota contre une bande de voyous, et bien d'autres situations cocasses et interactions déjantées entre les divers personnages du club de basket. Le chapitre en profitera aussi pour nous présenter le deuxième membre de la génération Miracle qui, comme les autres, ressortira très caricaturé puisque ce dernier ne compte que sur son horoscope et sa chance. Toutefois, on verra surtout la complicité entre Kuroko et Kagami se fortifier. Il est évident qu'on retourne dès le chapitre suivant aux choses sérieuses en révélant notamment le tableau du tournoi à venir. L'auteur parlera en surface du phénomène qui sévit aujourd'hui au Japon. Les équipes nippones de basket font de plus en plus appel à des étrangers boursiers, ce qui permet de faire directement la connaissance d'un nouvel adversaire qui a l'air tout aussi redoutable que les membres de la génération Miracle. Étonnamment, la confrontation a lieu tout de suite entre Kuroko et compagnie et le Sénégalais, ce qui fait plaisir puisque le match est amené de manière intéressante. Cependant, on pourra toutefois reprocher au mangaka d'aller un peu trop vite en besogne. En outre, une fois le match conclu, la suite s'avère des plus palpitantes puisque le match contre le lycée Shukoku, surnommé les Rois de l'Est et dont l'un des membres de la génération Miracle fait partie, s'annonce. En conclusion, Tadatoshi Fujimaki nous déçoit un peu dans ce second opus. Il pose les bases de l'univers de Kuroko's Basket en fortifiant le lien entre Kuroko et Kagami et il souligne également les intrigues et les enjeux à venir. Cependant, l'auteur a encore des progrès à apporter au niveau du visage de ses personnages et du déroulement de son récit. Voilà, donc Kuroko's Basket à retrouver en 30 tomes aux éditions Kazé. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Kuroko's Basket, c'est Kandu de Grand Rodeo. Et on revient juste après pour les sorties manga de la semaine.
Can you do it? ことも大学転身と決めたら残ったって頬笑むさめ腐ったままじゃ勝利の女神も振り向かうぞ試しにといて話したらどうだいどこまでやれそうかことを諦めてきた昨日も無駄にしない勇気を弾け飛んだ胸の奥よ今すぐダッシュ飛び出して Waking up Breaking up 瞑想でも勝ってばっか外野なんかをやってばっか調子こいても勝つのは俺だろう Can you do it 知ったこっちゃねえぞ baby 周りなんて黙らしてんぜ明日もわかるよ I can't do it You can't do it We can't do it I can't do it
C'était Grand Rodeo avec la chanson Kendo qui a servi de premier opening pour l'anime Kuroko no Basket. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu des sorties aujourd'hui lundi 23 août chez Black Box avec le volume 1 de Ultima Exodus, le volume 1 de Femme et Irlier Exploratrice, les volumes 1 et 2 de Fatal Fury Devil Street of Horror, une série terminée en 2 tomes. On a également les volumes 1 et 2 de Fatal Fury qui sont sortis, donc Fatal Fury qui est une série également terminée en 2 tomes, et on a eu aussi le volume 1 de Velvet Zone. Pour mercredi 25 août ensuite, aux éditions Kazé, on aura la sortie du volume 2 de Agent of My Heart, le volume 28 de Black Clover et le volume 13 de Hell's Paradise qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 3 de Alma, aux éditions Luna, la sortie du volume 3 de Azure, aux éditions Nobi Nobi, on aura la sortie du volume 1 de Christophe Colomb, le volume 1 des Fées du Roi Dragon et moi en chat, et le volume 1 de Martin Luther King. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 2 de Elfenlied, le volume 16 de Hikaru no Go, la version Deluxe, le volume 9 de Maison Ikoku, la réédition 2020 en perfecte édition, le volume 13 de Mixed et le volume 2 de Survivors Club. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 1 de Fragmentel, le volume 4 de I Fell in Love After School, le volume 7 de Nos Précieuses Confidences qui sera le dernier tome de la série, le volume 9 de Orient Samurai Quest, le volume 6 de Sensuel Dilemme, pardon, le volume 15 de To Your Eternity, le volume 6 de Vampire Dormitory et le volume 21 de Yuna de la Pension Yuragi. Aux éditions Soleil enfin, on aura la sortie du volume 2 de Insomniac, le volume 23 de Super Mario Manga Adventures, et le volume 2 de 3 Yakuza pour une otaku. Ensuite, pour jeudi 26 août, on aura des sorties chez Manabooks avec le volume 3 de Angel of Death, le volume 1 de Assassin's Creed Valhalla, et le volume 17 de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Aux éditions Kiun, on aura la sortie du volume 13 de Bright Stories, qui sortira donc en version tome normal et en version latitude, On aura aussi le volume 3 de Bâtard, le volume 10 de Jujutsu Kaisen, le volume 2 des Racailles de l'Autre Monde et le volume 11 de Outlaw Players. Aux éditions Hachette, on aura la sortie du volume 2 de Fairy Tail et le volume 28 de Naruto. Aux éditions Akata, le volume 1 du Goût des Retrouvailles et le volume 1 de Momélé. Aux éditions Comico, on aura la sortie du volume 1 du Lien du Destin et le volume 6 de The Dungeon of Black Company. Et enfin, aux éditions Omab K-Books, on aura la sortie du volume 4 de Many Reasons Why. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 27 août avec aux éditions Kana Tense le volume 1, le volume 12 de Boruto Naruto Next Generations, le volume 2 de Bucket List of the Dead, le volume 3 de Droner's Tales of New, le volume 15 de Hill et le volume 10 de Shaman King, la version 2008. Aux éditions Ototo, on aura la sortie du volume 18 de Bungo Stray Dogs, le volume 6 de Danmachi Sword Oratoria et le volume 12 de Mayball Feminine Football Team. Aux éditions Taifu Comics, on aura la sortie du volume 2 de Citrus Plus et le volume 4 de My Hero's Dream qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Chato Chato, on aura la sortie du volume 2 de Country Girl Alice in the Country of the Three-Sided Mirror qui sera le dernier tome de la série. On aura également la sortie du volume 4 de Dice aux éditions Nazca. Et enfin, on aura la sortie du volume 4 de Say Halo to Blackjack, la réédition 2021, qui sera donc à paraître vendredi prochain aux éditions Naban. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Radiate de Sob, et on reviendra juste après pour parler culture avec les secrets du saké. Donc c'était Sob avec la chanson Radiate. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des secrets du saké, donc en nous inspirant du livre écrit par Siméon Mollard qui est paru aux éditions Isekinicho. Donc on va parler de la manière de brasser le saké, donc les différentes étapes de production. On a tout d'abord la sélection du riz, ensuite on a le polissage, le lavage, l'immersion, la cuisson, le koji, le shubo, le moromi Ensuite, on a la presse et la filtration, la clarification, la pasteurisation, le vieillissement, l'ajout d'alcool, la réduction et l'embouteillage. Donc, on va pouvoir détailler un peu ces différentes étapes. Donc, le saké est une boisson plus complexe qu'il n'y paraît. Il existe de nombreuses variantes, créant de nombreux types de saké. Certaines étapes peuvent s'interchanger au gré des habitudes du brasseur. Chaque brasserie a sa méthode et ses secrets, puisque chaque saké est unique. Alors, du coup, pour parler un peu de la première étape du brassage du saké, on a tout d'abord la sélection du riz. Donc, il n'y a pas de système d'AOC comme nous le connaissons pour le vin. Au Japon, le riz peut être importé de n'importe où. Certains riz sont même importés de Chine ou de Corée. Donc, heureusement, la nouvelle législation sur le thème Nihonshu indique la tendance. Le monde du saké se structure et le Japon entend remettre de l'ordre dans ce secteur jusqu'alors très opaque. De nos jours, de plus en plus de brasseurs mettent en avant la qualité du riz utilisé. Ces sakés, issus de petites brasseries qui utilisent souvent un riz local, portent le nom de jizake. La deuxième étape, c'est donc le polissage. Donc au cœur du grain se trouve l'amidon que recherche le brasseur. Plus le riz est poli, plus le saké sera léger en bouche et aromatique. Actuellement, certains se livrent à une véritable course au polissage afin de présenter le saké le plus fin du monde. Ce qui aboutit parfois à des absurdités. Une fois les impuretés rognées, on finit par polir l'amidon qui est recherché. Les impuretés sont extraites sous forme de poudre, appelée noka. Elle servira ensuite, entre autres, à nourrir les animaux d'élevage. La troisième étape, c'est donc le lavage. Donc, pour enlever le noka qui s'accroche, on lave le riz. Le temps de lavage, comme toutes les étapes nécessitant de l'eau, est chronométré. Donc, certains brasseurs profitent de cette étape pour faire gagner au grain de riz 10% de son poids par absorption d'eau. Et d'autres préfèrent attendre l'étape suivante pour que le riz absorbe au final 30% de son poids en eau. Donc, la quatrième étape, c'est l'immersion. Donc, après avoir été lavé, le riz est immergé. Le temps d'immersion varie en fonction du taux de polissage du grain. L'objectif étant que le grain gagne 30% de son poids en eau. Un grain de riz poli dont il reste 70% de sa taille originelle sera immergé toute la nuit pour atteindre donc son objectif. Mais si le polissage préalable réduit le grain à 60% de sa taille d'origine, le riz atteindra son but en 10 à 20 minutes. Voilà, donc on continuera à parler des différentes étapes du brassage du saké la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson. On va s'écouter Ganshie Shijie de Sadingding. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Nabari. Thank you. Donc c'était ça Ding Ding avec la chanson Ganshie Shijie. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Nabari. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre fantastique qui a été écrit par Kamatani Yuki et prépublié dans le G-Fantasy. La version japonaise est parue aux éditions Square Enix avec un total de 14 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Asuka et Kaze avec 14 tomes également. Ce volume 2 est sorti le 29 janvier 2009 au prix de 7,69€. Le résumé de ce tome, il s'avère très vite que pour séparer le Shinra Bansho du corps de Miharu, les Kairoshu ont décidé de mettre la main sur les techniques secrètes de tous les clans ninja. Mais le plus terrifiant pour les membres du club de Nindo de Banten, c'est de découvrir que leurs alliés, autant que leurs ennemis, sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Quand il s'avère que protéger la vie de Miharu n'est pas une priorité pour grand monde, ils se retrouvent alors soudainement très seuls. Les ninjas de Kairoshu comptent parmi leurs rangs un utilisateur du Kira, une redoutable technique interdite pouvant donner la mort à quiconque en serait la cible. Dérobant la technique interdite du village Fuma, ils prennent la fuite en laissant des cadavres derrière eux. Fort heureusement, Rokujo et les siens sortent indemnes de la bataille, mais le jeune homme va vite se rendre compte à quel point les ninjas du monde entier désirent le Shinra Bansho. Dans de telles conditions, que doit-il faire? À qui doit-il se fier? Donc après un premier tome d'introduction qui entamait doucement l'aventure tout en se révélant extrêmement plaisant, ce second volume continue sur cette voie et dévoile les véritables enjeux de Nabari. Jusqu'ici, Rokujo devait se hisser sur le trône de Nabari tout en sachant que de nombreux soldats du monde ninja voulaient s'emparer du pouvoir qu'il renferme. Désormais, un plan narratif plus précis se met en place et cela passera par une rivalité face aux Kairoshu, en récoltant avant eux les différentes techniques secrètes des villages. Si tout peut paraître très classique dit comme ça, apprendre un tel enjeu permet enfin de cerner les ambitions de Nabari. Toutefois, on n'oublie pas qu'on a affaire à un shonen particulier où les phases de combat sont loin d'être l'élément clé du manga. Ainsi, on reste curieux de découvrir de quelle manière notre héros et ses compagnons vont procéder. Cette collecte des techniques constituera-t-elle un simple arc scénaristique ou bien les enjeux de la série tout entière? C'est avec un certain enthousiasme qu'on attend de voir les développements que nous proposera Yuki Kamatani. Ce tome 2 est également l'occasion idéale de nous présenter de nouveaux personnages ou bien d'insister sur les quelques figures entrevues dans l'opus précédent. L'accent est toutefois mis sur les alliés de Rokujo, autrement dit les ninjas du clan Fuma. Toutefois, une nuance est développée et le récit est loin d'être manichéen. Kotaro Fuma fait office de figure sympathique, mais ne boude pas son intérêt pour le Shinra Bansho. Chaque clan ne semble pas tout noir ni tout blanc, et il serait intéressant d'avoir un développement des ambitions du Kairoshu. Toutefois, le véritable élément déclencheur du récit semble bien être le chapitre 10, dernier de ce second tome. Le mystérieux Yoite est ainsi mis à l'honneur, se mettant à nu face à Rokujo et dévoilant ses véritables intentions. C'est assez surprenant venant d'un personnage étant resté jusqu'ici mystérieux voire sanguinaire, mais cela permet de fixer des enjeux bien plus vastes, promettant une suite riche en événements et en rebondissements. Et les fans le savent bien, ce chapitre va marquer le début d'un lien particulier entre les deux personnages, le début d'une histoire très humaine. Ce deuxième tome s'avère ainsi aussi plaisant que le premier et le surpasse en fixant de véritables enjeux, ainsi qu'en présentant et en développant des personnages clés du titre. Ceux qui attendent encore du titre une expérience du monde shinobi proche de Naruto peuvent définitivement passer leur chemin, les combats étant absents de ce volume et les dialogues dominant la narration. Pour peu qu'on adhère au charme de l'œuvre, on passe une nouvelle fois un excellent moment de lecture, la véritable introduction du récit est désormais derrière nous et les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Voilà, donc Nabari a retrouvé en 14 tomes aux éditions Kaze. On va pouvoir s'écouter tout de suite le premier ending de l'anime Nabari no O, c'est Ikari interprété par Elisa, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon.
りぼっちな痛み、
c'était Elisa avec la chanson Ikali qui est servie de premier ending pour l'anime Nabari no O. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc une nouvelle île a fait son apparition au large du Japon, à environ 1200 km au sud de Tokyo, après qu'une éruption volcanique sous-marine a eu lieu. Cette petite île, située à environ 50 km de l'île de Minami-Yoto de l'archipel Ogasawara, est en forme de croissant. Elle ne fait qu'un kilomètre de diamètre et les scientifiques n'ont pas encore été en mesure de déterminer sa composition, rapporte The Guardian. Elle pourrait disparaître assez rapidement, les gardes-côtes ont découvert ce nouvel amas solide le dimanche 15 août, en observant l'évolution de l'éruption volcanique depuis un hélicoptère survolant la zone. La durée de vie de cette île, qui n'a pas encore été nommée, pourrait être assez brève si sa couche terrestre n'est faite que de cendres ou de fragments de roches. En plein milieu du Pacifique, avec des vagues qui viennent la frapper en permanence, elle ne devrait ainsi pas résister longtemps, l'érosion la faisant peu à peu disparaître. En revanche, l'activité volcanique étant assez importante dans cette zone du Pacifique, la nouvelle île pourrait aussi bien se consolider et s'agrandir avec les coulées de lave successives, qui la rendraient donc plus résistante à l'érosion. Mais si l'on se réfère aux précédents cas comme celui-ci, qui ont déjà vu des îles se créer de la sorte en 1986 notamment, l'érosion devrait l'emporter. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Kumo no Kakera qui a servi de deuxième ending pour l'OAV Fate Stay Night TV Reproduction. Donc une chanson interprétée par Sachi Tainaka, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Donc c'était Sachi Tainaka avec la chanson Kumo no Kakera qui a servi de deuxième ending pour l'OAV Fate/stay Night TV Reproduction. On passe maintenant à la news musicale pour finir cette émission. Donc les 17 et 18 juillet dernier, le groupe sud-coréen Golden Child devait se produire pour leur second concert en ligne, le concert 2021 Golden Child Concert Summer Breeze. À cause du nombre grandissant de personnes contaminées par le Covid-19 en Corée du Sud, l'événement a été annulé. L'annonce qui aurait dû avoir lieu lors de ce concert, donc concernant leur retour, s'est alors faite sur les réseaux sociaux le 18 juillet. Donc le groupe était de retour le 2 août dernier avec son second album studio Game Changer, porté par la chanson Rapapam. Donc depuis leur participation à l'émission Road to Kingdom, la popularité du groupe de Woollim Entertainment ne cesse de croître. En l'espace de 6 mois, les ventes du groupe ont presque doublé, passant de 65 000 ventes pour Take a Leap à 114 000 ventes pour Yes. Le 30 juillet dernier, le groupe a dévoilé la liste des pistes qui composera ce nouvel opus. Game Changer contiendra donc 11 chansons de genres variés, dont plusieurs duos et trios. La chanson-titre Rapampam, produite par l'équipe Stardust, donc qui a produit notamment Obliviate pour Lovelies et Drum pour Checkmate, dont le leader Riser laissait de nombreux indices sur Twitter, fait écho à l'onomatopée d'un cœur battant. C'est une chanson à propos de la volonté d'aller vers l'espoir dans une situation anxieuse et confuse. Elle appartient au genre Mombaton, composé de sons à base de cuivre, de flûte et de percussions propres à la musique acoustique sud-américaine. Grâce au clip, plongé dans une dystopie en pleine fin du monde, on peut y suivre les membres se battant pour leur vie dans un univers post-apocalyptique. Je vais y arriver. On peut notamment y voir le leader d'Ayol se sacrifier et donner son oxygène à Y avant d'être mis à terre. Donc comme je le disais, les autres chansons appartiennent à des genres variés. On a par exemple Bottom of the Ocean qui est un hybride à forte batterie et guitare pop-rock, Fanfare qui appartient au genre disco-punk, Spell qui est un titre traitant de l'impossibilité de se défaire de l'amour envers un proche à la manière d'un sort. Du côté des duos, on a Joshon et Bomin qui délivrent un mix entre piano jazz doux et son de pluie sur Singing in the Rain, alors que Tag et J-Bom s'harmonisent autour d'un rap unique sur la chanson Game. Le titre de Y et Jongjun, Popin, attire particulièrement l'attention des fans avec une ambiance rétro-punk. Le seul trio de l'album ensuite, Emotional Feeling, donc qui est interprété par Seungmi, Jaehyun et Dongyun, est à propos d'un amour réconfortant. Et enfin, Daeol propose son titre en solo We Flow Out the Windows, une balade acoustique mid-tempo mettant en avant la sensibilité du chanteur. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter la chanson One Lucid Dream de Golden Child pour finir l'émission. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Asian Bubble, mais aussi pour notre émission Cordialement Geek, que vous pourrez retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h sur Neptune. Sinon, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
여긴 어디 난 누구 눈을 떠보니까 너무 평화로운 아침 기나긴 쇼를 봤어 이제 꿈이 아닌 현실 흠이 없는 꿈을 깨니 흠이 없는 평시 이제 부정할 수 없는 꿈 같은 나의 present
원했었던 잃었었던 찾아 헤매던 아님의 남던 눈을 더 깨어나 이미 완벽해진 나 추락하는 별 뒤도
넌 내 우주를 뒤집어 난 몰랐어 드라마 배
다짐했었지